Votre grand journal de soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Et avec les grandes voix, nous sommes vendredi soir. Catherine Ney est avec nous en studio. Bonsoir Catherine.
Bonsoir
Mathieu. Ça va Catherine ?
Très bien.
Gérard Carrérou est en studio aussi. Bonsoir mon cher Gérard.
Bonsoir Mathieu.
Tout va bien pour vous ? Charles Villeneuve était dans le studio il y a deux secondes. Il est sorti chercher un stylo et il revient. Charles Villeneuve, non, il n'est pas fâché du tout. Nous allons beaucoup parler du grand débat national ce soir. Et le stylo est retrouvé. Charles Villeneuve s'installe. Benjamin Muller est avec nous aussi.
Bonsoir à tous.
Il était rassuré que Charles soit sorti, puis finalement,
ouais,
il
est... je me suis dit coup de bol, il sera pas face à moi.
Mais... et c'est parti. Benjamin, aujourd'hui à la télé, à la radio.
Attention en particulier.
Non, pas du tout.
Mon cher Benjamin, vous revenez comme chaque semaine sur le meilleur, du pire, du meilleur, du grand journal du soir.
Oui.
C'était comment cette semaine ?
Eh bien écoutez, c'était éclectique. Vous avez parlé avec nos auditeurs de beaucoup, beaucoup de sujets différents. On sent que vous étiez très en forme, Mathieu, cette semaine.
C'est parti pour ce grand journal du soir. Allez, on va être fringant. La promesse est là. Nous nous y engageons et nous allons parler de pas mal de choses.
Et vous avez tenu votre promesse. Bon, en étant fringant, ben ça c'est toujours le cas, chacun le sait. Mais donc aussi en parlant de sujets vraiment variés, la preuve.
Un peu d'histoire de la philosophie. Nous sommes au 4e siècle avant Jésus-Christ.
Oui.
Diogène, philosophe grec, contemporain de Platon, disciple de Socrate.
Et oui, on est comme ça au grand journal du soir.
L'autonome.
On élève le débat. Et c'est pas chez les concurrents qu'on entendrait ça, hein, Mathieu,
on
comme vous me le confiez en antenne. Alors, vous n'avez pas parlé que de philo, mais aussi de vie quotidienne.
Bonsoir Eve.
Bonsoir.
Congrès des hépatologues aujourd'hui, demain à Paris. Il faut bien le dire, le congrès des hépatologues à la base.
Non,
c'est pas souvent à la une. On en parle. Non, mais c'est vrai, faut le dire honnêtement.
Oui, alors là, Mathieu, vous auriez peut-être pu vendre un peu mieux le sujet, non ? C'est pas votre passion, a priori, l'hépatologie.
L'hépatologie, ouais, en option.
En option, mais c'est pas grave, et c'est là tout votre talent, Mathieu. Même quand vous parlez de quelque chose pas hyper funky, vous savez retenir l'auditeur par la manche.
Toutes ces choses-là, on va en parler, pas forcément en ragoûtant comme ça, mais vous allez voir, ce sera un peu plus sexy à
17h40. Eh oui, ça va être sexy, c'est sexy ici, n'est-ce pas, Amblin ?
Installez-vous, il fait chaud sur Europe 1. En tout cas, il fait bon. Il est
mais
19h.
Non, Amblin, non, vous avez raison, il fait chaud, c'est très chaud ici. Par exemple, mercredi, débat sur les 80 km/h, le gouvernement semble prêt à revenir dessus, si j'ai bien tout compris. Interview de l'avocate Joanne Collard, pro-prévention routière et anti-caressage du français dans le sens du poil.
Et c'est prendre en compte la bêtise des Français, parce que ça ne peut être que de la bêtise. Les Français n'adhèrent pas aux mesures qu'on prend pour sauver leur vie, aussi ahurissant que ça puisse paraître.
Voilà ce que l'on appelle dire les choses telles qu'on les pense. Alors on a parlé philo, hépatologie, 80 km/h, mais à un moment, Mathieu, on est quand même revenu, comme vous dites dans votre jargon, à la vie normale.
Oui, retour à la vie réelle, retour aux choses normales, retour aux gilets jaunes et à l'affaire Benalla, c'est parti pour votre
grand. Ouais, retour à Benalla et aux gilets jaunes. D'ailleurs, de gilets jaunes, on a reçu la meilleure en termes de formulation, Ingrid Levavasseur. C'était lundi, elle parlait de la complexité des impôts en France.
On ne comprend que dalle, c'est du chinois. Est-ce qu'à un moment donné, on va comprendre qu'on s'adresse aux Français, pas seulement à ceux qui ont fait l'ENA ou Sciences Po ? Il y a une transparence à avoir pour arrêter de prendre les Français pour des cons.
Mais oui, là aussi, il faut dire les choses telles qu'on les pense. À propos de Joanneau ?
Quand je vois le salaire de Mme Joanneau, 14 000 euros pour des commissions qui ont lieu 3 à 4 fois l'année, excusez-moi, mais si ça c'est pas une aberration, et ben moi je suis un homme.
Oui, et a priori Mathieu c'est pas un homme, hein,
si j'ai bien
regardé. Alors à propos de la lettre de Macron aux Français, on retiendra cette métaphore pas mal de Philippe qui nous a appelé mardi au 39-21.
Moi je prends l'exemple, je crois que vous aimez bien le foot, si Didier Deschamps, avant la Coupe du Monde, avait envoyé une lettre aux Français en disant « Écoutez, je suis complètement perdu, je ne sais pas qui faire jouer, je ne sais pas quel système de jeu mettre en place, qu'est-ce qu'on aurait dit ?»
Et cela dit, moi j'aurais rêvé que Didier Deschamps me demande mon avis. Le mot de la fin pour Marilyn, elle nous a appelé mercredi, je ne sais plus de quoi elle parlait, de philo, de 80, peut-être des pathologies, je ne sais plus, mais au fond, peu importe.
Merci Mathieu de nous offrir un espace d'expression pour les auditeurs.
Merci Mathieu, merci Marilyn. Vous avez vu, je finis sympa.
Ah oui, semaine. Ça finit sympa, dis donc.
J'ai envie que vous m'aidiez à avoir des places pour le PSG.
Je me dis qu'il y a un piège. Est-ce que Charles Villeneuve est dans la salle ?
Oh Charles, bonjour.
Bon, nous allons parler du grand débat national. C'est tout autre chose, évidemment, avec Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et peut-être Emmanuel Macron du côté de Souillac, dans le Lot.
Il faut aussi que les élus que vous êtes, travaillez dans les meilleures relations possibles avec les représentants de ces autorités, qu'elles soient culturelles, éducatives, sur place. Et donc, mettre la BF dans la poche, ça veut dire l'associer à votre projet.
6h30 en Normandie, c'était mardi. On en est à 4h30 pour l'instant dans le Lot. On va voir ce que donne cette deuxième étape du grand débat national. Il est 19h28, les grandes voix à suivre.
Europe 1.
Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrère, ou vous peut-être au 39-21, n'hésitez pas.
Il est 19h30, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Catherine Néjar, Carrero et Charles Villeneuve.
Avez-vous, mes chères grandes voix, regardé les 6h30 à Grand Bortrude dans l'heure mardi? Catherine en a regardé un bon bout, je crois.
J'ai pas regardé parce que ça s'est duré après dîner et tout ça, donc moi j'ai pas pu regarder, mais j'avais regardé pendant 3h30. D'ailleurs, je trouvais ça assez fatigant, quoi. Et puis aujourd'hui, rebelote, mais jusqu'à notre émission, j'ai regardé une fois de plus.
Moi, idem, j'ai regardé jusqu'au bout, dans l'heure, et là, jusqu'au moment où on s'est rejoints tous pour venir dans l'émission. Alors évidemment, tout le monde va souligner, je pense Gérard en tête, la performance sans doute du président, et c'est vrai qu'elle est assez remarquable, mais moi je trouve surtout aujourd'hui...
Mais écoute, tu parles aujourd'hui.
Oui, je suis porte-parole.
Tu es mon porte-parole. Voilà. Tu es mon Benjamin Griveaux. Voilà.
Comme les gilets jaunes, il y a des porte-paroles autoproclamées sur tous les ronds.
Moi j'ai regardé, je réponds juste sur le temps, moi j'ai regardé aussi 4h30, pas tout à fait tout, donc 4h30 sur la Normandie, qui m'est chère, et puis depuis le 3h15 ou 3h20, jusqu'au moment où je suis venu vous rejoindre ici. Quoi, voilà. Donc j'ai vu le début des réponses du président de la République.
J'ai trouvé la performance des maires exceptionnelle. Les maires de l'Occitanie, d'abord leur accent qui est un accent caractéristique de cette région, qui est une très très belle région, qui couvre d'ailleurs l'une des régions natales de Carrero.
C'est les départements. Mon grand-père était du Lot, ma grand-mère de l'Aveyron, donc vous voyez, j'étais en plein dedans là.
Voilà, et puis je les ai trouvés remarquables. Alors, la performance, on la connaît. La première performance du président, on la connaît aussi. Elle était assez remarquable. Il a montré de la sagacité, de la précision, de la connaissance des dossiers, notamment aussi une proximité avec les maires, qui l'ont salué par une ovation à la fin. Je ne sais pas comment ça va se terminer ce soir, puisque c'est en cours, toujours. Mais il est tout aussi bon qu'il l'était durant la première manche. Mais je développerai, moi, une autre idée, justement. C'est qu'il est en train de prendre un pari extrêmement risqué.
Il prend un risque,
absolument, parce qu'il crée beaucoup d'attentes.
C'est la sortie. Quoi.
Et il faudra bien que ça débouche politiquement.
Mais puis je vais prendre la suite, alors, puisque tu n'es plus mon porte-parole à cette seconde-là.
Il vient d'être limogé.
Tu peux être le mien si tu veux.
J'avais trouvé assez époustouflant, je l'avais d'ailleurs dit quand on m'avait posé la question, la première prestation, celle d'Evreux. Là, bon, il est toujours aussi bon, il connaît techniquement très bien les sujets, il virevolte, il passe de l'un à l'autre, etc. Il n'a plus rien à prouver dans ce domaine-là, il a démontré. Et alors, il y a deux choses qui changent par rapport, effectivement, si on compare les deux débats, parce que c'est un peu la tentation qu'on a, c'est de les comparer. Les maires sont effectivement bien supérieurs, je parle en termes de questionnement, et il y a un certain nombre de maires qui se sont lâchés, comme on dit, qui lui ont balancé un certain nombre
notamment
de choses.
Notamment le maire de Saint-Cyr.
Le maire de Saint-Cyr, que j'ai noté une phrase ou deux du maire de Saint-Cyr, mais je vais vous faire grâce de la première, mais la deuxième, il a dit « Arrêtez de nous mépriser ». Il y avait déjà eu Sarkozy avec son « Casse-toi, pauvre con ». Il y avait Hollande avec les sondants. Et vous, maintenant, vous nous traitez de fainéants cyniques, ceux qui déconnent, etc. Arrêtez de jeter en pâture les plus faibles,
Attendez,
etc.
Vous savez ce qu'on va faire, Gérard? Parce que Jean Lénaf, qui réalise cette émission, est très très fort. Écoutez, c'était Christian Vanry, le maire de Saint-Cyr.
Il a fait le même choix que moi. Ouais.
Arrêtez de stigmatiser, d'opposer, de mépriser. Parce que cela ne fait que générer de l'incompréhension et de la violence. Nous avons eu M. Sarkozy, casse-toi pauvre con. Nous avons eu M. Hollande, les sondants. Et vous maintenant, les salariés de GAD, des illettrés qui n'ont même pas de permis. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Non. Vous traitez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de fainéants, cyniques et extrêmes. Mais on doit être nombreux. Et cette semaine, les gens en situation de difficulté, on va les responsabiliser, car il y a ceux qui vont bien et ceux qui déconnent. Enfin, Monsieur le Président, mais il faut vraiment arrêter de jeter en pâture les plus faibles, les plus précaires, les plus démunis.
Catherine, vous disiez sur ces petites phrases hors antenne, nous parlions dans l'après-midi, il est très intelligent Emmanuel Macron, mais on dirait qu'il ne s'en sert pas sur certains aspects.
Il ne s'en sert pas parce que là, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il sort quelque part, on attend la petite phrase qui va vexer quelqu'un. Il a une parole vexatoire, irritante même, qui crée une sorte de... de prurite chez ceux qui l'écoutent. Et ça, c'est inutile parce que, je veux dire, c'est avec ça qu'il peut même faire des problèmes. Il peut complètement casser. Il est en campagne de reconquête, là. Hein, faut pas se casser. Bon. Oui. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il doit séduire. Donc, il doit éviter toute parole inflammatoire alors que le terrain est très enflammé. Bon, moi, je trouve que cette fois-ci, il n'a pas encore terminé. Apparemment, en Occitanie, il y a pas de petites phrases qu'on peut lui mettre dans les dents comme l'autre jour en Normandie.
Peut-être qu'il apprend au fur et à mesure.
Peut-être qu'il apprend, mais il serait temps qu'il apprenne parce que quand on lui dit, mais fais attention, pourquoi est-ce que tu dis ça ? Ses amis lui disent ça, il dit, mais moi, je suis comme ça. Mais non, justement, c'est parce qu'il est comme ça qu'il peut se faire beaucoup d'ennemis inutilement. Et quand on se demande pourquoi les gens le détestent, c'est uniquement pour ça. C'est pas tellement tant pour les résultats que cette provocation permanente. Et surtout, la deuxième chose, c'est de décider des choses d'en haut sans consulter la base et des terrains intermédiaires. Et c'est bien ça que lui ont reproché les maires aujourd'hui, qui lui ont dit, mais écoutez-nous, si vous nous écoutiez, vous feriez beaucoup moins d'erreurs.
Mais au-delà de ça, Catherine,
il y a Charles et Catherine, le rôle des maires, hein,
il y a quand même deux, mais il y a quand même deux dangers. Parce que là, alors, ça peut changer, il peut aller devant d'autres publics. Pour l'instant, il s'est effectivement attelé à la reconquête des maires. Il y avait du déficit, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il est parti à la reconquête des maires, quitte à recevoir un certain nombre de critiques, on vient d'en entendre quelques-unes, assez dures dans la figure, mais ça le gêne pas. Il se dit, je renoue le tissu social avec les maires, etc. Moi, ce que je redoute pour lui, outre ce qu'a dit Charles, qui est la sortie, alors ça, la sortie, on pourra en reparler, la sortie, c'est-à-dire qu'il faudra bien, à la sortie, annoncer des choses, et là, quand on fait des choix, on a une partie des gens qui seront pas contents, ça c'est clair. Mais même avant ça, je me disais, au fond, nous, on est des journalistes politiques, on le regarde sur la longueur, mais que vont retenir les Français jusqu'à présent de ces deux grands débats ? Ils auront entendu sur Europe 1 quelques extraits, comme vous l'avez fait là, comme vous l'avez fait la semaine dernière. Ils auront vu à la télé, peut-être dans les 20 heures, là encore, ils auront vu peut-être l'extrait qu'on vient d'entendre. Etc. Mais pour le reste, ils n'auront pas du tout entendu les réponses. Et quand, par exemple, il parle de l'ISF, il a refait aujourd'hui un plaidoyer pour l'ISF, en expliquant, il avait déjà expliqué que ce n'était pas ça qui donnerait de l'argent aux plus pauvres ou aux gilets jaunes. Là, il a expliqué ce soir que finalement, sans ISF, il n'y aurait pas le développement des entreprises, etc. Ce qui est assez juste, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est audible aujourd'hui, oui, par ceux qui le critiquent ? Enfin, c'est audible par une partie.
Il n'est pas complet sur l'ISF. Parce qu'en réalité, il ne l'a pas supprimé complètement. Il l'a déporté sur le patrimoine immobilier. Voilà.
Mais ça, il l'a dit, je n'ai pas... Il l'a précisé, il a dû t'entendre et là... Il a
19h38.
Europe 1.
Je retiens de cette première partie du débat l'idée qu'on a la performance du président de la République, technique, qui connaît bien les dossiers, l'Emmanuel Macron de la campagne présidentielle sur bien des aspects, qu'on a en face des maires, des élus locaux qui jouent leur rôle et qui crèvent l'écran, mine de rien, cette semaine. Nous allons continuer à parler de ce grand débat national et de ce qu'il faut en attendre. Est-ce que ça suffira ? Est-ce que c'est très prometteur ? Mais que du coup, derrière, il faut assurer. Charles Villeneuve, Gérard Carrero et Catherine Ney dans un instant sur Europe.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir, Catherine Ney, Gérard Carrero et Charles Villeneuve.
Et nous parlions de ce grand débat national, nous continuons à en parler. Au début de ce grand journal du soir, je posais la question à nos auditeurs très simplement. Comprenez-vous les gilets jaunes qui poursuivent le mouvement ? Lions les deux. Est-ce que cet exercice et ces deux premiers actes du grand débat national peuvent influer sur la mobilisation de ce 10e samedi consécutif de manifestation des gilets jaunes demain, Catherine ?
C'est-à-dire que après le discours d'accueil de Monsieur Sanfourche, le maire de Souillac, Emmanuel Macron a pris la parole. Il a fait une sorte d'introduction pour dire « Je suis venu vous entendre. Vous nous dites ce qui remonte de votre population. » Ça peut dire éventuellement des gilets jaunes. Et il s'est déjà défaussé en disant « Mais la problématique de l'insatisfaction, elle ne remonte pas. Elle remonte à 20 ans. » Et de citer, par exemple, la facture sociale de 95 qui n'avait pas été suivie des faits, y compris le référendum dont on parle tant en 2005 sur l'Europe, et on avait repris comme s'il n'avait pas existé en 2007 autrement les choses, et que les Français avaient pu se sentir un peu quand même lésés par cette audace. Donc, et puis il dit, mais vous savez, alors là, nous ne sommes pas l'addition de 66 millions d'existences. Un projet, ce n'est pas faire droit à toutes les demandes. Donc il dit déjà attention, attention. Et c'est bien pour ça que le maire de Cahors lui a dit écoutez, vous venez nous entendre, on est très contents, mais qu'allez-vous, nous allons faire les doléances, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on aimerait avoir, mais faites attention parce que si vous n'allez pas assez loin, la déception risque d'être très grande. C'est ça le problème. Alors,
mais votre question, c'est est-ce que cet acte 2, finalement, du grand débat, de l'oral, en quelque sorte, de ce gigantesque oral avec les maires, va influencer le nombre de gilets jaunes?
Il faut rappeler qu'ils étaient plus nombreux la semaine dernière, que c'était reparti à la hausse.
Moi, je pense que plus que le débat et les effets de ce débat, c'est la diminution de la violence qui influence le nombre de gilets jaunes, ou en tout cas de ses supporters et de ceux qui viennent manifester, notamment dans la capitale. Or, on a pu remarquer l'acte 9, c'est-à-dire samedi dernier, que la principale colonne, le principal cortège, qui partait notamment de Bercy, était encadré, et fortement encadré, par des militaires à la retraite, qui portaient d'ailleurs, qui montraient bien qu'ils étaient d'anciens militaires, puisqu'ils avaient leurs insignes de régiment, soit sur leur treillis, soit sur leur béret. Et ils avaient aussi un petit ruban blanc qui encadrait. Et donc, c'est ce qui a fait aussi qu'il y a moins de violence, vraisemblablement. Et moins de violence attire toujours plus de gens dont la sympathie est évidente pour les revendications des gilets jaunes.
Certains se disent peut-être ce soir,
c'est en cela que les gilets jaunes
ne
s'est pas, le mouvement ne s'est pas essoufflé. Le mouvement s'est relancé samedi dernier.
Oui, non seulement il s'est relancé, puisqu'il y a eu 30 000 personnes de plus dans les rues qu'il n'y avait eu le coup d'avant. Moi, je pense que demain, on ira vers une mobilisation qui sera aussi de cette nature, de la nature de la semaine dernière, qu'il n'y a pas raison pour les gilets jaunes, de raison fondamentale, de ne plus aller manifester. La nature du mouvement est en train de changer. Les modérés sont en train de se dire « bon ben, on discute, on va probablement peut-être obtenir un certain nombre de choses à la fin dans le débat ». Donc il y a une érosion, on le voit d'ailleurs dans le soutien un petit peu d'opinion, encore qu'aujourd'hui on est à peu près encore à 50-50. Au niveau l'opinion qui soutient et l'opinion qui ne soutient pas, on est à 50-50. Mais je crois qu'il y a une politisation plus grande. Par exemple, les gilets jaunes qui se sont alpagués aujourd'hui même, avec le ministre de l'Agriculture, M. Guillaume.
Il y a eu un
échange assez vif sur le coup d'une heure de l'après-midi. Eux, ils avaient des slogans qui étaient les slogans pratiquement identiques à ceux de Mélenchon. C'était « rendez l'argent de l'ISF ». C'était tous les slogans très, très politiques. Mmh. Et donc, je pense que, en fait, l'affaire est devenue... Dès le départ, elle était politique. Mais elle deviendra, au fur et à mesure, de plus en plus politique.
Et identifiée.
Oui, Macron essaye de consolider sa base qui est restée de son élection du premier tour de la présidentielle, de récupérer une partie de l'électorat de droite qui était un petit peu inquiète de voir les violences, etc. Et de l'autre côté, Marine Le Pen à sa manière, Mélenchon et les autres confortent leur soutien aux gilets jaunes.
Charles, c'est d'ailleurs... ça, le phénomène le plus inquiétant pour l'exécutif, c'est que c'est un mouvement social qui est devenu un mouvement politique. Et ça se politique d'autant plus que vous avez vu que dans les revendications, en tout cas les doléances des maires, cet après-midi, mais aussi dans l'heure, mardi dernier, vous avez plus, comme revendication, plus de services publics. Il a déjà ouvert les vannes, et notamment accordé la chaîne du lest avec 10 milliards. Et on ne peut pas plus de services publics. Où trouver l'argent? Si on fait l'addition de ce que vous avez vu,
si
le chiffre...
Si on fait moins d'impôts, plus de services publics, on va avoir un problème.
De Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, les deux chiffres. 100 milliards de dettes dans le prochain budget, 100% du produit intérieur brut d'endettement.
19h47. Europe 1. Les questions sont posées. Après, est-ce que les réponses seront applicables? Et vous avez dit deux choses très importantes en amorce de ce débat. Le risque de décevoir va être immense parce que ça soulève un espoir.
Le pari qui est risqué.
La frustration qui s'exprime aussi. Ce grand débat national en discussion. Je ne vais pas dire en débat, en discussion avec les grandes voix ce soir. 19h47.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, les grandes voix d'Europe 1. À vos côtés, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carreau.
On a dit qu'il y avait une prise de risque du président de la République. Une prise de risque avec ce grand débat national. On le voit d'ailleurs sur la scène, applaudi, parfois bousculé par les élus locaux. 600 maires normands mardi, 600 maires d'Occitanie ce soir, en ce moment même. Hein, cet échange continue. Je pense qu'il va jouer à Bruce Springsteen. Vous savez, Bruce Springsteen, à chaque concert, on essaie de voir s'il bat son record précédent. 3h30, 4h, là, 6h30 mardi, on verra combien de temps ça dure aujourd'hui. La déception, s'il y a déception, c'est une catastrophe pour Emmanuel Macron.
La phrase la plus nette, je crois d'ailleurs que Catherine l'a peut-être dit tout à l'heure, mais oui. Le maire de Cahors, attention au boomerang de la déception.
Bien sûr.
Et lui, ce maire de Cahors, a eu par ailleurs un discours assez modéré, demandant plus d'aménagement du territoire, enfin des choses qui sont tout à fait raisonnables. Mais il dit attention, et un autre maire
de l'Ariège
dit attention. Il ne faudrait pas que ce débat devienne le grand bluff.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'à la sortie, il n'y ait pas les mesures que le peuple, enfin qu'une partie du peuple attend.
Mais tout le monde sera très content d'avoir son débat dans sa circonscription.
Mais c'est quoi la sortie ?
Mais
c'est pour ça, Mathieu, que soit il tient compte de tout ce qu'il a entendu et il va devoir détricoter tout ce qu'il a fait depuis 2 ans. Soit il n'en tient pas compte et alors à ce moment-là, c'est le risque, l'avertissement du maire. De Cahors, etc., et ce que tu viens de dire, le grand bluff. Il est dans une position beaucoup plus fragile qu'on l'imagine. Le choix va être, je ne dirais pas cornélien, parce qu'il va falloir choisir. Mais de toute façon, il y a une logique à ce débat, à ce grand débat. C'est-à-dire qu'après avoir visité les 12 régions de France, il en a fait 2 déjà, ben, il va bien falloir qu'il mette sur la table une proposition.
Comme disait un grand personnage d'Europe 1, qui était le président Sylvain Floirat, que Catherine, Charles et moi avons connu. Le président Floirat avait une phrase quand on lui proposait une affaire ou quelque chose. C'était un paysan, lui, c'était un homme
de Dordogne.
Vraiment, il avait une culture rurale. Et il disait, oui, c'est très intéressant, mais où est le gras là-dedans? Où est le gras là-dedans? Et ben, c'est la question que les gens vont se poser à la fin du débat. Où est le gras là-dedans? Si on leur donne effectivement ce qu'ils demandent, ce n'est pas 10 milliards qu'il a déjà donné, mais c'est 20 milliards de plus qu'il faut payer.
Oui.
S'il ne leur donne pas,
il ne peut pas dire circuler, il n'y a rien à voir.
Il ne peut pas dire circuler, il n'y a rien à voir, mais quand on a vu déjà tout ce que réclamaient les maires, c'est-à-dire qu'il y ait plus de trains, qu'il y ait plus de voitures, les gens qui n'avaient pas de voiture, qu'on puisse les aider à acheter une voiture.
Oui,
enfin,
tout à fait.
Plus de profs, que les écoles ne ferment. Que les classes ne ferment pas,
pas fermeture de classe, même quand il y a moins d'élèves,
plus de postes à l'heure d'internet.
C'est
très bien. C'est des revendications.
C'est très bien.
Je prise séparément, elles sont toutes intéressantes.
Bon, mais c'est très intéressant.
Il faut les financer.
Et comme disait Flora, qui disait autre chose quand il sentait qu'une affaire était bonne, il dit ça sent la truffe. Mais moi, je ne suis pas sûre.
Alors, il était vraiment de Dordogne.
Je ne suis pas sûre que les maires diront en sortant après avoir écouté ça sent la truffe.
Parce qu'il y a aussi beaucoup d'options qui ont été mises sur la table, posées. C'est quoi derrière?
Ah ben oui, les options. Alors après les options de sortie, c'est est-ce qu'il fait un référendum? Est-ce qu'il fait un référendum avec un certain nombre de questions en essayant de rassembler les sujets sur les qui coûtent pas trop cher? Hein, par exemple, de diminuer le nombre de députés, ça coûte rien. Enfin, ça coûte.
Ouais.
Ça, peut-être même que ça rapporte un peu. Et prendre, par exemple, le vote blanc comptabilisé, tout ça, ça coûte rien. Alors, il peut rassembler un sujet,
et
un certain nombre de sujets, et faire voter la
solution.
Mais les Français diront c'est un grand bluff.
Non, c'est pas possible.
Non, oui, ça changera au pouvoir d'achat.
80. Ce soir, il a confirmé les 80 km. Comme une loi absolue du territoire, c'est mort.
Oui.
Ça veut dire que dans
on peut l'aménager.
Il a prononcé le chiffre de 15% des
cas.
Donc tu vois, sur les 80 km/h, il a arrangé un petit peu. Il dit pas tout à fait la même chose que devant les Normands. On avait compris qu'il avait complètement désavoué son premier ministre.
Oui.
Et là, je pense que là, il a été. Il dit non, on ne peut pas remettre.
Il y a eu les associations qui protègent les automobilistes.
À partir du moment où il a lancé cette mécanique. Mathieu, Gérard, Catherine, je pense que vous serez d'accord avec moi, il est obligé de mettre sur la table sa responsabilité devant le peuple.
Oui.
Surtout que là, ça fait 2 fois qu'on le voit dans la même semaine. Bon, on trouve ça intéressant, on trouve les maires formidables, mais je ne sais pas si encore 10 séances de la même chose, je ne sais pas si les télés reprendront
à la troisième ou la quatrième fois,
il y aura plus. Je voulais poser la question aux hommes de télévision.
Non.
Est-ce que c'est un bon programme télé au moins?
Cet après-midi, j'ai trouvé que c'était un formidable. D'abord, on voit la qualité des élus locaux de cette région.
Mais ça se regarde.
Parce les maires étaient bien. Bon. Oui,
mais
non, les
donc,
maires étaient intéressants.
Avoir fait autant, avoir brûlé autant de pétrole, s'être donné autant de mal. Et on voit bien que ce soir, il était plus fatigué que mardi dernier. Hein. Il a le visage un peu émacié. Je veux dire, parce que là, vraiment, pour répondre,
c'est
comme
long,
ça,
une campagne.
Ah, c'est long. Hein. Ça, c'est long. D'ailleurs,
on aura l'occasion
c'est d'ailleurs un maire, Emery de Montesquieu, qui lui a dit, dis donc, vous avez parlé plus longtemps que Fidel Castro dans ses congrès. Il lui a dit ça, bon, pendant le débat. C'était assez drôle. Et c'est vrai qu'on se dit, mais même on l'a vu, il ne buvait pas d'eau. Enfin, je veux dire, c'est une épreuve physique.
Catherine Ney, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, merci beaucoup. Ce grand débat national, on n'a pas fini d'en parler. Les grandes voix qui étaient avec nous en studio ce soir, 19h55. Émilie Mazeuillet, bonsoir.
Salut Mathieu Béliard.
Comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Qu'est-ce qu'on écoute? Ça
ce
va.
Ce soir? Oui, il me répond même
pour
plus,
répondre,
mais je
oui,
sais
si,
que
si,
ça
va.
Je sais que ça va, vous êtes le meilleur. Ce soir, on a deux invités. Déjà, on a le chanteur Kent.
J'aime un pays qui a le paf tout ramolli dans ce pays.
Kent, qu'on adore depuis son groupe Star Shooter à la fin des années 70.
Qui fait danser Catherine Ney.
Ah, super. Continuez danser, ça c'est super. Kent a écrit un roman, c'est pas son premier, il s'appelle Peine perdue et on va en parler ce soir, ça sera formidable. Et puis le groupe Luc aussi est de retour avec un nouveau single. On les aura avec nous.
Super. Émilie Mazeuillet, j'ai des très bons souvenirs de Luc en musique de 20h à 22h. Charles ?
Moi j'étais le chaouche d'André Arnault, donc quand il arrivait vers midi, juste avant le journal de 13h, il me dit, Charlie, le lingot, il est à combien?
Omblyne, bon week-end.
Oui, bon week-end. À lundi, Mathieu Béliard, 17h dans un instant. Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1. Europe 1.